Radio Prague, les informations.
Le niveau de corruption est le plus bas depuis 9 ans en République tchèque. Question, les néo-nazis défileront-ils dans le quartier juif de Josefov à Prague en toute impunité? Et l'élection présidentielle tchèque au suffrage direct en question. Le niveau de corruption est le plus bas depuis 9 ans en République tchèque et est comparable au de 1997. C'est ce que présente le dernier rapport établi par l'organisation Transparency International qui a mené l'enquête dans 179 pays du monde. Comme les années précédentes, c'est les pays scandinaves qui sont les meilleurs élèves en la matière. La Birmanie et la Somalie sont-elles en queue de peloton? La République tchèque se trouve au même niveau que l'Italie, à la 41e place d'après l'index de perception de la corruption. Transparency International a relevé des aspects positifs et négatifs en République tchèque. Elle a salué la création de la haute cour d'administration en 2003, l'adoption de la loi sur les conflits d'intérêts, mais elle a montré du doigt les problèmes dans les enquêtes sur la corruption des hauts fonctionnaires ou la corruption en entreprise ou encore dans les médias. Les néo-nazis défileront-ils dans le quartier juif de Josefov à Prague en toute impunité? C'est la question qui se pose après la décision du tribunal municipal de Prague de rejeter l'interdiction de défilé émise par la mairie de la capitale tchèque. L'an dernier, la mairie avait interdit le même défilé pour des raisons de, je cite, « sécurité de manifestants et de possibles complications de circulation ». Le chef de file des Jeunes démocrates nationaux, un groupuscule néo-nazi, a porté plainte contre la mairie. Le tribunal a tranché, les arguments émis pour justifier l'interdiction sont insuffisants. La date du défilé néo-nazi est fixée au 10 novembre. Le groupuscule prétend vouloir manifester contre la guerre en Irak, mais la date est également celle de la Nuit de Cristal, qui en 1938 a vu la destruction de centaines de synagogues en Allemagne et de milliers de commerces juifs. Ce mercredi, les chefs des 5 partis parlementaires tchèques débattent au Sénat de la possibilité d'une élection présidentielle au suffrage direct en République tchèque. Le chef du gouvernement de coalition actuel, Mirek Topolánek, ne voit pas de raison de passer à une élection au suffrage direct. D'après lui, le système actuel marche bien et n'est pas moins démocratique. Le chef du parti communiste, Vojtěch Filip, s'est exprimé très prudemment sur le sujet. Quant aux leaders du parti social-démocrate, des Verts et des chrétiens démocrates, ils se sont tous dit en faveur d'une élection du président par les citoyens. L'ancien président tchèque et dramaturge Václav Havel s'est exprimé sur la problématique des changements climatiques et ce 2 jours après le discours de son successeur Václav Klaus à la tribune d'une conférence à l'ONU où celui-ci mettait en doute l'impact de l'homme sur le réchauffement de la planète. Václav Havel l'a fait sous la forme d'un éditorial dans le journal International Herald Tribune dans lequel il a expliqué que le réchauffement climatique ne devait pas être pris à la légère. Les deux hommes sont connus pour avoir des vues politiques opposées. Et en outre, dans une interview au quotidien tchèque Mladá Fronta Dnes, l'ancien président a également exprimé son inquiétude quant aux événements de ces derniers jours en Birmanie. L'ancien dissident qui soutient l'opposition birmane craint en effet que la junte militaire au pouvoir n'utilise la force, ce qui s'est d'ailleurs produit entre-temps. Et on finit par la météo. Le temps sera maussade et couvert jeudi avec des précipitations venues du sud et de possibles orages. Les températures ne monteront pas plus que 16 degrés le 27 septembre, qui est la fête de tous les Jonaches en République tchèque. Le bulletin d'information de Radio Prague vous a été présenté par Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinsky.
Eh bien, merci à Anna pour ces dernières nouvelles et voyons maintenant l'actualité plus en détail. Pour commencer, les réactions à l'annonce de la démission de la ministre de l'Éducation, Dana Kuchtova. Ensuite, Jirka Gisubelova nous présentera l'opinion des Tchèques sur les greffes et les dons d'organes. Alexis Rosenzweig, lui, a rencontré un Français qui habite un château non loin de Plzeň, en Bohême de l'Ouest. Nous terminerons ce magazine d'actualité avec Anne-Claire Veluire, qui vous présentera l'exposition WordPress Photo à Prague. Toute la rédaction vous souhaite une parfaite et agréable réception de notre programme. Cela n'a pas créé la surprise car on s'y attendait depuis un certain temps. La ministre de l'Éducation, Dana Kuchtova, qui représente les Verts au gouvernement, a annoncé sa démission mardi. La raison de cette décision, la ministre ne voit pas la possibilité de réparer les erreurs commises dans le passé. La tension qui s'est créée en ce qui concerne l'utilisation des fonds européens ne lui permet pas de trouver une solution à la situation qui règne dans son ministère. Explication de Dana Kuchtova.
Je sens très bien que la tension politique, mais aussi la tension au sein des milieux académiques augmente. On me fait porter le chapeau et je devrais respecter des délais et résoudre quelque chose qui dure depuis déjà 2 ans et demi. Moi, on me demande de résoudre le problème en très peu de temps.
De quoi s'agit-il, très brièvement, de la présentation des projets indispensables pour bénéficier des fonds européens destinés à l'éducation nationale? Le ministère est en retard, les projets ne peuvent être examinés par la Commission européenne, ils doivent être corrigés et le versement des subventions est menacé. La ministre a annoncé sa démission après de longues discussions avec la direction de son parti. Le président des Verts, Martin Bursik, a pourtant déclaré qu'il la soutenait. Premier ministre Mirek Topolánek, qui l'avait mise en garde si les projets n'étaient pas présentés à temps, la décision de Dana Kurtova est logique. Il reconnaît qu'une certaine pression existait, mais affirme aussi que les Verts ont eux-mêmes senti que leur ministre de l'Éducation nuisait au parti et même à la coalition gouvernementale. Qui va remplacer Dana Kurtova? Le Premier ministre envisage 3 possibilités.
Soit je désignerai très rapidement un nouveau ministre, ou alors je chargerai un autre ministre de la direction de l'éducation. Dans le cas d'une courte période seulement, je peux aussi confier le ministère à l'actuel vice-ministre. Aucune décision n'a été prise jusqu'à maintenant. Tout dépend de la personnalité du ou de la ministre que le Parti des Verts me recommandera.
Le Conseil républicain des Verts devrait décider du successeur de Kurtova le 7 octobre et la démission de la ministre devrait être acceptée sans problème par le président Václav Klaus. Le Premier ministre Mirek Topolánek a écarté la possibilité que la démission de Dana Kurtova puisse entraîner un remaniement de son cabinet. Une telle situation pourrait venir l'année prochaine, au mois de juin, quand il pense examiner en détail les chantiers entrepris ou réalisés par ses ministres. À Bruxelles, Eva Kaluzinska, porte-parole pour le développement régional, affirme « Inutile de critiquer tel ou tel programme. Ce qui nous préoccupe est l'approche générale de la Tchéquie en ce qui concerne l'utilisation des fonds européens. » Malgré les préoccupations que suscitent les aspects éthiques de la transplantation et le don d'organes, la société tchèque se montre favorable à l'utilisation des organes en tant que seul espoir de vie, peut-on lire dans le communiqué de presse de l'agence Factum Invenio. Jarka Gisubelova pour plus d'informations.
Le tout récent sondage effectué par l'agence Factum Invenio sur commande de la Fondation pour l'encouragement aux dons d'organes démontre en effet que la transplantation d'organes devient, aux yeux de l'opinion publique, un moyen de traitement courant. La totalité des personnes interrogées reconnaît qu'un seul donneur d'organes peut sauver la vie à plusieurs malades à la fois. Cependant, tout le monde ne s'identifie pas à l'idée qu'ils soient eux-mêmes les donneurs d'organes, dit le directeur de Factum Invenio, Jan Herzmann. On l'écoute.
Près de 60% des Tchèques sont d'accord avec le don d'organes en cas de décès. Le nombre de personnes qui consentent au prélèvement d'organes reste depuis quelque temps presque sans nuance. Ce qui change, c'est l'intensité du consentement. Si au cours du dernier sondage de 2001, les personnes résolument pour étaient plus nombreuses, aujourd'hui, leur accord est exprimé avec moins de conviction.
En République tchèque, le don d'organes est régulé par la loi relative aux transplantations de 2002. Cette loi adopte le principe du consentement présumé du donneur, c'est-à-dire que toute personne majeure est considérée consentante au prélèvement de ses organes et tissus après sa mort si elle n'en a pas manifesté de refus de son vivant. Cela ne veut pas dire pour autant que la Tchéquie n'ait pas une pénurie d'organes. Le président de la Société des transplantations, Stefan Vitko, explique.
La première condition pour pouvoir identifier la personne décédée comme un donneur d'organes est de pouvoir prononcer le diagnostic de la mort cérébrale, donc une destruction irréversible du cerveau. En même temps, il faut que les fonctions vitales des reins, du cœur, du foie soient maintenues. Ce qui est un concours de circonstances relativement rare. Un exemple, sur près de 1400 personnes qui trouvent chaque année la mort dans les accidents de la route, le diagnostic correspond aux critères établis à la mort cérébrale ne peut être prononcé que sur près de 60 d'entre elles.
Taková diagnóza, která by splňovala kritéria, která potřebujeme těch lidí, je kolem 60 do roka.
En fait, qu'il est difficile d'accepter pour 40% des personnes interrogées et de déclamer quelqu'un dans le cœur bas, admet Stefan Witko en soulignant qu'il faudrait avoir vu la situation des malades atteints d'insuffisance rénale, cardiaque, pulmonaire ou hépatique, dont de nombreux meurent justement faute de ne pouvoir recevoir une greffe à temps. À l'heure actuelle, près de 4700 personnes en République tchèque vivent avec un organe greffé.
Zoltán Dufeigneux habite à Dolné Lukavice, quelques kilomètres au sud de Plzeň, dans le château du village. Un château en état confisqué aux ancêtres de Zoltán par les communistes et restitué récemment. Un château dont le propriétaire d'origine était le comte von Morzin, qui a employé Joseph Hein en 1758 comme maître de chapelle. C'est dans ce château que Joseph Hein a composé sa première symphonie, la symphonie de Lukavice, Lukavicer Symphonie, un reportage d'Alexis Rosenzweig.
Je suis Zoltán Dufeigneux. Ici, on m'appelle le comte à la bière, même si je n'en suis pas un. Mais bon, c'est plutôt rigolo. Donc, je suis franco-tchèque. Bon, j'ai toujours vécu en France. Je vis ici depuis 3 ans ou un peu plus que ça. Et donc, nous sommes là avec ma mère pour nous occuper de cette restitution qui a été restituée à mon grand-père, qui lui habite en France, dans le Lot. Nous sommes donc entre Pilsen et Klatovie. Dans la Bohème profonde. Après, ce château a été construit en 1706, si je ne me trompe pas, par le comte Morzin. Donc, comme beaucoup de gens le savent, Haydn a habité ici, donc a fait ses premières symphonies, etc.
Alors, c'est où? On peut y aller?
Oui, on peut y aller, bien sûr.
Alors c'est même une symphonie, la première symphonie d'Haydn qui porte le nom de ce village.
Oui, Lukavica. Donc en fait, là où on était, c'est la partie la mieux préservée, on va dire.
C'est là où vous habitez.
Oui, c'est là où nous habitons. Là, on arrive à la moitié, en fait. Ici, c'est vraiment la moitié. Est-ce qu'on peut voir la première pièce?
C'est gigantesque, avec un piano.
Le piano, c'est un cadeau du fils de Stibor Turba. Voilà, Haydn habitait ici. Bon, il y avait une belle fresque, mais qui n'est plus là, vraiment. Elle est plus chaotique qu'autre chose.
Alors, Haydn habitait ici et composait ici. Oui. Donc, c'est là qu'il a composé sa première symphonie.
Oui, et en fait, il est situé en face de la chapelle.
Thank you.
L'exposition qui fait le tour des métropoles mondiales s'est installée à Prague du 14 septembre au 7 octobre, dans l'enceinte du Carolinum. Les meilleures photos de presse de l'année 2006 sont donc présentées au public, qui peut ainsi revenir sur les événements qui ont marqué l'année écoulée. La World Press Photo est aussi une exposition artistique, où sont délivrés des prix qui récompensent les meilleurs clichés. Anne-Claire Veluire s'est rendue au vernissage de l'exposition.
C'est le Néerlandais Peter Scholz qui a remporté le prix spécial de la ville de Prague de la World Press Photo 2007 avec des photos de handballeurs néerlandais réalisées pour un calendrier qui devrait permettre de sauver leur équipe d'une grave crise financière. Peter Scholz présente aussi une série de photos de la finale de la Coupe du Monde de football avec le fameux et malheureux coup de boule de Zidane sur le défenseur italien Materazzi. L'exposition 2007 présente en effet cette année beaucoup de photos relatives au sport, mais aussi à l'environnement et aux animaux, avec des photos illustrant la beauté et les mystères de la nature. Mais logiquement, la World Press Photo présente les meilleurs clichés liés à l'actualité politique et aux événements survenus sur la scène internationale durant l'année passée. Ainsi, on peut se rendre compte, avec les photos d'Arturo Rodriguez, du décalage entre de jeunes migrants clandestins qui échouent, épuisés, sur les plages des Canaries espagnoles, alors que les touristes, qui viennent à leur secours, étaient tranquillement en vacances au bord de la mer. On voit la détresse d'une Israélienne obligée de quitter sa maison dans la colonie de West Bank, mais aussi des ravages de la guerre au Liban, avec la photo de l'année 2006, elle aussi tout en contraste, du photographe Spencer Blatt. Mikhaïla Kouracheva, coordinatrice de l'exposition pragoise, nous commente cette édition 2007.
Je pense que l'exposition a toujours les mêmes thèmes et reflète toujours ce qui s'est passé l'année précédente. Ce qui m'a surprise cette année parmi ces photographies, ce sont par exemple les clichés sur la guerre au Liban. Nous l'avons peut-être perçu comme un conflit marginal et quand on voit ces photos, on se rend compte que c'était très grave pour les civils. Il y a aussi des clichés sur d'autres conflits, mais aussi sur des animaux et sur les événements sportifs. Il faut souligner dans le sport les photos de la Coupe du Monde de football en Allemagne qui est richement représentée.
Le journaliste Josef Klima, qui présente un magazine d'actualité sur la chaîne de télévision privée Nova, était lui aussi venu voir cette exposition.
Je suis maintenant journaliste à la télévision, mais pour moi, les photos sont quelque chose de différent que la vidéo, parce que la photo coupe un moment de cet instant. C'est donc extrêmement émotionnel, même si c'est un temps parce que l'on peut se promener sur toute la composition du cliché, car une image ne peut pas bouger. Moi, chaque fois que je suis ici, je crains que ce soit toujours très dur, horrible. Et cette année, évidemment, il y a des choses horribles, comme cette photo d'une explosion de gaz au Nigeria. Mais il n'y en a pas autant que certaines autres années, et ça m'a réjoui d'une certaine façon. Je me réjouis beaucoup avec les clichés sur les animaux. Et aujourd'hui, la nature a une grande place dans l'exposition. Et j'aime bien aussi que cette exposition aille un peu dans cette direction plutôt que dans des horreurs.
La World Press Photo reste donc à Prague 3 petites semaines avant de continuer sa tournée mondiale.
Nous allons maintenant quitter l'actualité avec la fin de Faits et événements pour nous plonger dans le passé, toujours sur les ondes de Radio Prague.
Chapitre de l'histoire tchèque.
Des Français dans des geôles tchécoslovaques, c'est le thème de ces chapitres de l'histoire qui vous sont proposés par David Allon et présentés par Jarka Kisublova et Alena Gebertova. Il y a eu ces voyages de personnalités françaises dans la Tchécoslovaquie communiste qu'on connaît bien, ceux d'Aragon ou de Garodi dans les années 60, par exemple. Ces séjours officiels concernaient généralement des intellectuels sûrs, fidèles compagnons de route du parti. On se rappelle aussi du séjour d'Elsa Triolet en 1959 et du monstre qu'elle voyait dans la statue de Staline, alors sur l'Etna. Et puis, il y a eu ces autres Français, connus et moins connus, qui connurent les prisons du régime, ou du moins sa police politique.
En avril 1949, Marcel Pospíšil, française et professeur à l'Institut français de Prague, est arrêté par la police politique et condamné à 15 ans de travaux forcés. Le motif ? Espionnage au profit de la France. Elle sera libérée au bout de 15 mois de négociations avec les autorités françaises. Mais l'épisode montre que l'immunité ne vaut plus en Tchécoslovaquie pour les ressortissants du camp impérialiste. La rupture est consommée.
Pourquoi Marcel Pospíšil a-t-elle été la cible du régime ? Sans doute pour les symboles qu'elle incarnait. Pendant la guerre, Marcel avait organisé en Angleterre les écoles de la France libre. Elle était donc d'office supposée appartenir au camp du gouvernement tchécoslovaque, symbole pour le parti de la Première République tchécoslovaque dans Oni. Elle était par ailleurs parente du général Heliodor Pika, légionnaire en France pendant la Première Guerre mondiale et grand résistant de la Seconde.
Et puis, bien sûr, Marcel Pospíšil travaillait pour l'Institut français, que le parti brocardait régulièrement comme centre de propagande et qu'il fera fermer le 1er mai 1951. C'est d'ailleurs un autre Français, Marcel Émonin, qui sera à l'origine de cette fermeture. Acteur d'un coup monté à base de dénonciations fantasques des membres de l'Institut. Cet ancien directeur de l'Institut demandera l'asile politique à la Tchécoslovaquie. Il obtiendra. Le régime le lui doit bien.
L'arrestation d'un intellectuel français aura lieu 30 ans plus tard, également dans un contexte de durcissement du régime, celui de la normalisation. Mais celle-ci fera plus de bruit car elle touchera une figure connue du grand public, le théoricien de la littérature, Jacques Derrida. Elle sera aussi d'autant plus étonnante qu'elle intervient dans les années 80, à une époque où le régime n'emploie plus des méthodes aussi expéditives que dans les années 50.
C'est à la fin de son séjour à Prague, en décembre 1941, que Jacques Derrida est interpellé à l'aéroport de Prague. Il est arrêté pour trafic de drogue. Les policiers trouvent en effet du haschich dans ses bagages. Bien entendu, c'est un coup monté. L'inculpation trouvera nécessaire d'ajouter au motif du trafic celui de la production de drogue, une accusation pour le moins loufoque.
La célébrité de Derrida dans les milieux intellectuels français impose de toute façon de sérieuses limites au régime tchécoslovaque, sous peine de crise ouverte avec la France, ce qu'on ne souhaite pas sans doute. Mais les inquiétudes sont, en court laps de temps, palpables. On se rappelait de la mort 4 ans plus tôt, en 1977, du philosophe Patočka, suite vraisemblablement aux tortures subies lors de son interrogatoire. Le régime policier pouvait encore se montrer extrêmement brutal.
Jacques Derrida ne passera finalement qu'une journée et une nuit en prison, mais son arrestation résonne comme un avertissement des autorités vis-à-vis des dissidents tchécoslovaques et notamment des signataires de la Charte 77.
Derrida n'est en effet pas n'importe qui puisqu'il a fondé en cette même année 1981 l'association Jan Hus qui entretenait des contacts étroits avec les dissidents et leur fournit une aide matérielle importante et variée. Organisation de conférences à Prague avec des intellectuels français, fourniture de revues et de journaux français. Tout ce qui permet aux intellectuels tchèques de se tenir au courant des débats d'idées à l'Ouest. L'association aide aussi financièrement les écrivains pour les frais d'imprimerie, de traduction et de reproduction des samizdat, publications clandestines. Elle a aussi permis à certains d'entre eux d'être publiés en France.
On le voit, le régime tchécoslovaque savait parfaitement qui elle arrêtait en s'en prenant à Derrida. Le parti tolérait d'autant moins ces liens entre intellectuels des deux pays qu'ils offraient en une vue au-dessus du rideau de fer pour les opinions publiques internationales. On n'est pas donc étonné de la prompte expulsion à la fin de 1979 du cinéaste Patrice Chéroux et du professeur Jean Dieudonné, venus à Prague même afin d'exprimer leur opposition à l'arrestation récente de Václav Havel.
Au-delà de l'anecdote, ces contacts insolites entre la police politique du régime et des intellectuels français résonnent le symbole des liens forts entre Tchèques et Français autour de certaines valeurs, dont celle de la liberté.
Il est temps de nous quitter car nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Il ne nous reste plus qu'à donner rendez-vous pour une nouvelle émission sur les ondes ou sur le web, mais toujours de Radio Prague.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listen Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 10 hours UTC on 17540 kHz. Listeners in South and East Asia and Australia can tune in at 20 hours on 11600